Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous chopperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Peut-on vraiment construire une histoire quand nos vies sont si différentes? Nos âges, pas forcément compatibles, des valeurs, une éducation différente. Si votre réponse à cette question est non, l'histoire de Justine devrait vous faire changer d'avis.
On est en 2015, en septembre 2015 plus précisément. Je viens d'avoir une année un petit peu compliquée parce que je suis partie en Erasmus à Berlin. Mais ça s'est pas très bien passé. J'ai eu beaucoup de mal à gérer la distance avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches. Et j'ai eu aussi une rupture amoureuse. Donc, année compliquée. Et septembre 2015, ça marque vraiment pour moi un renouveau. Je termine ma licence d'histoire. Mon année d'Erasmus, du coup, je l'ai pas validée. Donc, je recommence ma troisième année de licence d'histoire. Et je décide d'emménager avec une de mes amies les plus proches à Paris. Avec mon ami, on fait une sorte de pacte hein, de décider qu'on va pas se mettre en couple cette année-là parce qu'on a envie de vraiment profiter de notre colocation toutes les deux. On a envie de profiter entre filles à Paris en tant qu'étudiante et on décide d'organiser une pendaison de crémaillère. Et donc on va inviter seulement quelques amis, c'est censé être quelque chose en étant à 4-5 personnes, sauf que les amis invitent des amis, qui invitent des amis, on se retrouve plus nombreux que prévu et je rencontre un garçon à cette soirée. C'est un garçon qui est un peu plus âgé que moi. Il a 25 ans à ce moment-là, et donc moi j'en ai 21. Il travaille déjà, il est ingénieur, et il n'est pas trop dans l'optique de s'engager. Donc la soirée où on se rencontre, on va un petit peu se tourner autour à la soirée, puis on va passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, il va simuler un mal de tête pour quitter mon appartement, et il va quand même accepter qu'on se revoie dans la journée pour aller boire un café et on va commencer à se fréquenter régulièrement, mais sans être officiellement un couple. Au début, c'est plutôt pour m'amuser, mais au bout d'environ un mois, je commence quand même à développer des sentiments. Le temps passe et on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur le même rythme, parce que moi, je suis du coup toujours étudiante. Lui est déjà travailleur et donc en fait il a ses journées de travail qui sont très remplies. Il est assez ambitieux, il a envie de grimper assez vite les échelons dans la société où il travaille, donc il travaille beaucoup. Le soir, il est fatigué, il a envie de se poser tranquillement et puis moi je suis plutôt dans ce rythme étudiant où le soir j'ai quand même envie de bouger, j'ai quand même envie de sortir. Le week-end j'ai envie qu'on fasse des choses ensemble, j'ai envie qu'on voyage. Ça crée une distance entre nous et ça crée une différence de quotidien. Ça crée une différence de vision aussi de l'avenir qu'on pourrait avoir ensemble. Et de son côté, il n'y a pas du tout de volonté de s'engager. Il refuse de me présenter à certains de ses amis. Il ne veut pas forcément rencontrer les miens non plus. Et il ne veut pas forcément que je rencontre sa famille. Ça me fait souffrir parce que je suis quand même dans une famille où on est très proche. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais petite, donc j'ai que ma mère et ma sœur, donc on est très fusionnels toutes les trois. Et être en couple avec quelqu'un pendant longtemps et ne pas le représenter, ça me fait vraiment bizarre. Et la chose qui, je pense, me fait le plus souffrir, c'est que moi, je vais commencer à vraiment exprimer mes sentiments, je vais commencer à lui dire que je l'aime, et lui ne me répond pas. Et donc, en fait, moi, je suis dans une sorte de fatalisme, d'acceptation. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je suis avec lui, je l'aime, on s'entend quand même super bien. Et donc, j'accepte de lui dire régulièrement « je t'aime » et de n'avoir aucune réponse. Je me convainc qu'il m'aime, mais qu'il sait pas me le dire, ou qu'il ose pas me le dire. Mais au fond de moi, je me dis, vu qu'on se voit régulièrement, et vu voilà, qu'on s'entend bien, qu'on construit quand même une relation, en fait, il m'aime, il a juste peur. Cette situation, elle va durer jusqu'à la fin de notre histoire, donc jusqu'en mai 2017. Entre-temps, j'ai aussi appris qu'il m'avait trompée. Donc ça a été, disons, la goutte d'eau. À ce moment-là, je me dis que je suis vraiment dans un schéma qui est très nocif pour moi, de me laisser m'attacher à quelqu'un autant, quelqu'un qui ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Et je me dis, en fait, que je mérite mieux. Mais à ce moment-là, je suis plus du tout dans le principe de l'engagement, je suis plus du tout à penser aux relations, je suis encore très attachée à lui et il me faut vraiment des mois pour réussir à passer au-delà de la rupture. L'année qui va suivre va être la plus difficile. L'année 2017-2018, c'est vraiment la descente aux enfers pour moi. Je me cloître chez moi. À ce moment-là, je ne vis plus avec mon ami, puisque la relation a aussi nui à notre amitié et donc on a décidé de ne plus habiter ensemble. Je vis seule, ce qui ne me convient pas du tout. Et je me cloître chez moi, j'arrête de parler à mes amis, je m'isole complètement, donc je ne parle plus à personne. J'ai très peu de contact avec ma famille, très peu avec mes amis. Je suis normalement en deuxième année de master à ce moment-là. J'ai beaucoup de mal à suivre le cursus, le parcours. Allant du coup très peu en cours, j'ai du mal à me faire aussi des amis à l'université. Et vraiment, je me retrouve complètement seule et très triste. Et donc, du jour au lendemain, je quitte tout à Paris et je vais en Belgique. Sauf que, bien sûr, j'emmène mes problèmes avec moi. Et en Belgique, ça va pas du tout. Je trouve un stage, mais j'arrive pas à m'y rendre. Bah bien sûr, j'ai pas validé mon stage, hein, puisque j'avais du mal à y aller. Du coup, j'ai pas validé ma deuxième année de master, donc je me retrouve à redoubler, encore une fois. Et donc là, bah, je prends mon courage à deux mains, je mets ma dignité de côté, et j'appelle ma mère, et je la supplie de retourner vivre chez elle. Alors, je m'entends bien avec ma mère, mais on a une relation qui est assez particulière, assez fusionnelle. Donc moi, comme je disais, j'ai perdu mon père quand j'étais petite. Et il faut savoir que ma petite sœur a des gros problèmes de maladie. Elle a des troubles alimentaires qui sont extrêmement forts depuis l'âge de 10 ans. Et donc, en fait, avec ma mère, on a un petit peu vécu tout ça ensemble, le deuil et puis la maladie. Et donc, en fait, on est vraiment très soutenantes l'une envers l'autre. Et en même temps, on a été tellement fusionnelles quand j'étais jeune qu'à un moment, il y a eu besoin de casser ce lien. Et je suis partie de chez moi assez jeune, je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans. Et donc là, j'avais envie de prouver en fait que je pouvais m'en sortir toute seule, que j'étais une adulte. Et je la rappelle, j'ai 24 ans. Et donc c'est vraiment un échec pour moi, à 24 ans, de retourner vivre chez ma mère complètement. Elle m'accueille à bras ouverts, parce que bien sûr, je suis sa fille, elle n'a pas envie de me laisser comme ça. Et elle me dit, il n'y a pas de problème, tu rentres vivre à la maison. Mais par contre, c'est pas du tout le genre à me laisser dépérir toute seule dans mon coin. Et c'est aussi ça qui va m'aider, parce qu'il y a un cadre. Je peux pas me lever à 14h, je dois manger 3 fois par jour des repas équilibrés, et je dois participer aux tâches ménagères, et je dois me bouger, en fait. Tout simplement. Et en fait, c'est le fait d'avoir de nouveau un cadre, et je pense de me sentir aussi entourée et aimée, parce que toute cette période d'avant où je vivais toute seule, en fait, j'avais l'impression d'avoir personne sur qui compter. Et là, ma mère est là pour moi, et c'est ce qui me donne la force, en fait, de me relever de tout ça. Et donc, je retrouve un stage de fin d'études en région parisienne qui me plaît énormément. Et c'est aussi là que je découvre ce que je veux faire. Parce que, en fait, pendant toutes mes études, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Du coup, j'ai un petit peu fait des études au hasard. Ce qui n'a pas trop aidé pour me motiver. Et là, en fait, je découvre vraiment ma vocation lors de ce stage. Je fais un stage en droit des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, c'est le déclic. Et je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est dans ce domaine-là que je veux travailler. Cette vocation, c'est un fil directeur, en fait, dans ma vie. C'est une ligne à suivre. Avant, j'étais un petit peu perdue. L'impression qu'il n'y avait rien que j'avais réussi à construire. Et là, dans les moments où je suis quand même triste, où je vais repenser à ma rupture, où je vais repenser à ma vie amoureuse, mais je me dis, en fait, je suis en train de me former pour faire un métier qui me plaît. Et donc, en fait, au niveau professionnel, ça fonctionne. Et donc, ça me suffit pour avancer. Je décide de ne pas avoir de relation, quelle qu'elle soit, avec des garçons, que ce soit avec engagement ou pas. Je décide que je ne verrai personne tant que je n'irai pas mieux. Et c'est très salvateur. Ma reconstruction, elle va durer jusqu'en 2020, donc environ 2 ans. Début 2020, j'ai trouvé un travail. J'ai donc mon premier emploi qui me plaît beaucoup à ce moment-là. Et donc voilà, je suis très heureuse professionnellement, je suis très contente. Et je me sens reconstruite quand le Covid arrive. Et là, on est en 2020 et le confinement tombe. Professionnellement, c'est assez particulier parce que je viens juste d'être embauchée et que je me retrouve en télétravail. Et surtout, ce qui va être compliqué, c'est que je vais me retrouver confinée avec ma mère. Et elle habite dans un petit appartement. Et donc, faire toutes les deux du télétravail sur la table du salon, ça va très vite être compliqué à gérer au quotidien. En tout cas, ça crée pas mal de disputes. D'abord, en fait, je vais décider de déménager parce que ce confinement m'a montré que j'avais plus envie d'être virée avec ma mère, que justement, j'étais reconstruite. Je me dis, c'est bon, j'ai ma reconstruction, elle est terminée. Je vais bien, je suis bien dans ma peau, bien dans mes baskets. J'ai envie d'avancer et du coup, je déménage. Et je déménage pas très loin de chez ma mère, dans la même ville, mais dans une colocation avec pas mal d'autres jeunes. On est 7 jeunes travailleurs à vivre ensemble. Et je me dis que ça va beaucoup m'aider à avancer aussi, d'avoir déménagé et d'avoir mon chez-moi. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis prête à avoir de nouvelles relations et je décide de m'inscrire sur un site de rencontre. Les applis de rencontre, c'est un sentiment très particulier parce que je me rends compte que je plais et ça fait plaisir à l'ego surtout. Je me sens mieux dans ma peau à ce moment-là. Je sens que je plais aux hommes. Et je recommence à vivre ces jeux de séduction qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un. Donc, c'est toujours assez palpitant comme moment. Je rencontre pas mal de garçons. Et qui sont des histoires sans lendemain ou certains que je vais revoir seulement une ou deux fois. Mais c'est des personnes assez sympathiques, assez chouettes. Et je vais me lancer quand même à avoir plusieurs garçons à la fois. Donc, ça me demande quand même pas mal d'énergie, socialement parlant. Et là, je vois une très grosse différence à avant, quand j'arrivais plus du tout à avoir d'interaction sociale avec les gens. Et maintenant, j'ai mes colocataires, mon travail et les garçons que je vois. Je rencontre un garçon sur cette appli de rencontre. C'est censé être une soirée sans lendemain. Donc on se voit à ce moment-là, on est en décembre 2020. La particularité aussi des applis de rencontre pendant le Covid, c'est qu'il fallait trouver un petit peu des moyens pour se rencontrer. C'est un peu particulier parce que tous les bars, tous les restaurants sont fermés. On sent vraiment qu'on a une vraie alchimie et on décide de se voir après la période des fêtes. Et donc je vais chez lui et on passe la soirée et la nuit ensemble. Et environ 2 semaines après, il me propose qu'on se voit cette fois-ci sur Paris, pas chez lui, mais ailleurs. Et on va recommencer à se voir toutes les 2-3 semaines environ, à chaque fois dans des hôtels différents. Lui, il est militaire, donc il est pas souvent là, en tout cas pas toute l'année. Et il a été très clair dès le début, il veut pas du tout s'engager. Il ne voudra jamais s'engager de sa vie. Il s'est fait la promesse de ne jamais avoir ni femme ni enfant. Et il voit d'autres personnes. Donc voilà, c'est très clair entre nous. Je ne veux rien de plus. Il ne veut rien de plus. Sauf qu'on commence à se parler tous les jours. Vraiment, il n'y a pas un seul jour sans qu'on discute. On est extrêmement proches et je tombe amoureuse. Je garde ces sentiments pour moi pendant longtemps, des semaines. Je recommence sur le même schéma qu'avant à me dire « S'il se comporte comme ça, c'est qu'il tient à moi, mais qu'il a du mal à l'exprimer. » Et finalement, je me dis « En fait, c'est pas possible. Je peux pas retomber là-dedans. Je l'aime, mais je peux pas. Je mérite mieux. » Et donc, je décide d'arrêter complètement la relation et d'arrêter de lui parler. Du coup, c'est difficile de faire le deuil d'une relation qui n'a pas vraiment existé. Au niveau professionnel, ça va un petit peu moins. Je m'épanouis moins dans mon travail et je vais aussi avoir des rencontres beaucoup moins sympathiques, notamment sur les sites de rencontres, mais aussi avec des amis. Et je suis dans une phase où je me dis qu'il faut absolument que je voie des garçons pour aller mieux. Même quand j'en ai pas vraiment envie, je me dis que c'est ça en fait, c'est mon exutoire du travail, c'est mon exutoire pour aller mieux en général dans la vie. On est toujours en 2021, été 2021, je suis très bien dans ma coloc par contre. Je m'entends extrêmement bien avec mes colocataires qui sont devenus des amis très proches. Et il y a une autre colocation de jeunes travailleurs dans la même rue que nous, avec qui je m'entends très bien aussi, qui sont aussi devenus des amis. Du coup, vraiment, on est une petite bande d'amis, 10-15 personnes, à être tout le temps ensemble. Et ça, c'est vraiment ce qui me permet de me maintenir la tête hors de l'eau. Et on passe tout cet été-là ensemble. Moi, je suis tout le temps fourrée chez mes voisins. Et on fait beaucoup de soirées. On est fin juillet 2021. Et c'est l'anniversaire, justement, d'un des voisins. Et il propose qu'on passe tout le week-end ensemble. Donc moi, c'est déjà ce que je fais tout le temps. Donc le vendredi soir, après le travail, je vais chez les voisins, comme d'habitude. Je m'apprête pas particulièrement, c'est l'été. Et quand j'arrive, je vois un garçon chez eux que je ne connais pas. Ma première réaction, c'est de me dire qu'il est mignon, mais voilà, sans plus. Et puis, on va commencer à discuter à cette soirée. Donc, ce garçon s'appelle Louis. Et on commence à parler tous les deux un petit peu de notre vie. Je me rends compte qu'on se ressemble pas du tout. Donc, il m'annonce qu'il est venu de Belgique juste pour le week-end. Parce qu'il est ami avec certaines personnes qui vivent dans cette colocation. Il vient d'avoir 20 ans. Il est étudiant. Et il vient d'une ferme. Et ses parents sont agriculteurs. Et il vit toujours chez eux, donc voilà, il vit dans une ferme. Et donc moi, à ce moment-là, c'est vraiment très intriguant de rencontrer un garçon comme ça, aussi gentil et aussi doux, aussi calme, et qui a beaucoup de choses à dire sur la vie qu'il a, qui est très cultivé et qui est très intéressant. Il est très jeune, mais il est très mature pour son âge. Et surtout, ça change des discussions que je pouvais avoir d'habitude. Parce que je suis encore dans cette période site de rencontre où je suis tout le temps dans un schéma de séduction qui au départ était chouette mais qui commence à être un petit peu lassant, qui est toujours à visée sexuelle. Et là, je suis dans une discussion qui est complètement dénuée en fait de séduction, qui est juste se rencontrer l'un l'autre, se découvrir, se parler. On discute de beaucoup de choses, il me raconte comment c'est la vie à la ferme. C'est très rafraîchissant pour moi de rencontrer quelqu'un qui est pas du tout dans le même quotidien que les personnes qui vivent en ville ou qui ont un travail, on va dire, plus commun. Voilà, il me raconte ce que c'est de s'occuper des animaux, ce que c'est d'être là pour ses parents, pour sa famille. Il est très famille. Et on parle aussi de religion, parce qu'il vient d'une famille catholique, assez traditionnelle. Et lui, il a, durant une bonne partie de sa vie, il a été accompagné par une forme de communauté religieuse, qui est une communauté où il y a des frères et des sœurs de l'ordre franciscain. Et il a fait des camps de vacances là-bas quand il était plus jeune et aussi quand il était adolescent. Donc voilà, la religion a quand même une place importante dans sa vie. Et donc pour moi, c'est des discussions que j'ai pas du tout d'habitude avec les garçons que je rencontre. Donc, c'est vraiment chouette de le rencontrer. Il sort du lot. C'est exactement ça. Et je vois rapidement que je lui plais. Il me le fait comprendre en me laissant gagner à un jeu de société. On fait un jeu de cartes tous ensemble. Et devant tout le monde, il fait exprès de me laisser gagner pour me faire comprendre que je lui plais. Ça se voit qu'il sait pas du tout s'y prendre. Il a jamais dragué de sa vie. Et du coup, c'est très attendrissant, en fait, de voir que je lui plais, de voir qu'il sait pas du tout comment s'y prendre pour me le dire, pour engager quelque chose. Physiquement, c'est pas du tout mon genre. Je suis surtout sortie avec des hommes déjà de mon âge ou souvent plus âgés. Aussi, beaucoup d'hommes d'origine méditerranéenne. Donc la peau bronzée, les cheveux noirs. Et lui, il est blond, aux yeux bleus. Donc voilà, il est pas moche à regarder, mais physiquement, c'est pas du tout non plus ce qui m'attire. Et c'est aussi pour ça que ce soir-là, je le repousse, parce que ce soir-là, j'ai pas envie, encore une fois, de me forcer à passer la soirée avec un homme. Je me dis que je vais rentrer chez moi, que je vais passer ma nuit toute seule et que ce sera très bien comme ça. J'ai passé une bonne soirée, et voilà. Et le lendemain, je retourne chez les voisins, puisque le lendemain, c'est donc le samedi, c'est le jour de l'anniversaire de ce voisin qui est aussi mon ami. Donc Louis est encore là, puisqu'il est là pour tout le week-end. Et je vais quand même faire un effort pour m'apprêter pour la soirée, en me disant quand même que c'est un petit peu pour lui. Quand j'arrive, je vois qu'il a laissé une place exprès à côté de lui, pour que je puisse m'asseoir à côté de lui. Et donc on va recommencer à discuter tous les deux. On va pas se lâcher du tout. Je sens qu'il a jamais expérimenté ça, qu'il a jamais dragué en fait, qu'il a jamais essayé d'avoir une relation avec une femme. Et on en parle ensemble. Et en effet, il m'avoue qu'il n'a jamais eu de petite copine. Il a eu déjà une expérience sans lendemain, une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Et il n'a jamais eu de relation. Et donc ça, pour moi aussi, c'est tout nouveau. Parce que moi, bah, j'ai toute ma valise bien remplie de relations et d'échecs amoureux en tout genre. Et lui, en fait, c'est vraiment une page blanche où tout reste encore à créer. C'est quelque chose qui m'attire et en même temps, je n'imagine rien de possible parce que je me dis, il est jeune, il a encore tout à construire. Moi, voilà, j'ai 7 ans de plus que lui, je suis un peu cassée. Je me dis qu'il trouvera une fille de son âge avec qui il va être très bien, avec qui il va construire une première relation, tomber amoureux et quelqu'un avec qui il sera sur la même longueur d'onde. Et lors de cette soirée, je vais quand même saisir une ouverture. Il me parle d'un objet qui pour lui est important, un ciseau dont le manche a été gravé par un ami. Et il me propose de me le montrer parce qu'il l'a avec lui. Et il me dit « je vais le chercher ». Et je lui dis « non, je viens avec toi ». Et donc je le suis et on se retrouve dans la chambre de nos amis. Tous les deux, j'avais envie d'avoir un petit peu d'intimité avec lui, même si il y a un petit peu quelque chose qui me dit qu'il faut que j'y aille quand même. Et on s'installe dans cette chambre et on commence encore une fois à discuter. Pendant longtemps, on va rester là-bas pendant au moins une heure ou une heure et demie. Et je vois encore une fois qu'il a envie de tenter quelque chose, mais il ne fait rien. Moi, j'ai souvent l'habitude de faire le premier pas. Cette fois-ci, j'ai plus envie. Je crois que j'ai envie de me laisser aussi un petit peu courtiser. Donc je le laisse un petit peu patauger tout seul. Et puis, au bout d'une heure et demie, au moment de redescendre voir les autres, parce qu'on se dit, bon, on est quand même à une soirée, on va aller un petit peu voir nos amis. Et à ce moment-là, il me dit, il y a une dernière chose que je voudrais faire avant qu'on parte. Et là, il m'embrasse. Voilà, donc notre premier baiser, qui lui a demandé beaucoup de courage de se lancer. De faire le premier pas, je suis très contente qu'il l'ait fait et on va passer tout le reste de la soirée ensemble et la nuit ensemble et tout le reste du week-end. Et là, on communique vraiment sur ce qu'on veut et donc moi, je lui dis, je veux pas m'engager en quoi que ce soit avec toi parce que voilà, t'es un petit jeune homme qui a encore vécu aucune relation sérieuse. Et je peux pas te promettre quoi que ce soit. Et même juste passer le week-end avec lui, moi, sur le moment, je lui dis « Non, mais on va pas passer la nuit ensemble. C'est pas possible. Enfin, t'es jeune. Tu... Non. » Et lui, c'est lui qui me dit je suis peut-être jeune, mais je suis en âge de prendre mes décisions. Et donc, si je te dis que j'ai envie de passer ce week-end avec toi, c'est que c'est le cas et c'est que j'en suis capable. On va aussi discuter de ce qu'on ressent pour d'autres personnes à ce moment-là. Donc moi, j'ai toujours des sentiments pour ce garçon que j'avais rencontré sur le site de rencontre. Et lui m'annonce qu'il a toujours des sentiments pour une fille qu'il connaît, une de ses amies les plus proches, dont il est tombé amoureux. Ça n'a pas donné de suite, malheureusement, ça n'était pas réciproque. Mais voilà, on est tous les deux à se dire, de toute façon, on a tous les deux des sentiments pour quelqu'un d'autre, soit des personnes qui ne veulent pas de nous, mais en tout cas, on n'est pas encore reconstruit de ça. Du coup, il n'y a aucun risque que ça dépasse le week-end, parce que de toute façon, notre cœur, il n'est pas à prendre. On se sépare le mardi matin parce qu'il doit retourner en Belgique. Il doit retourner à la ferme pour travailler. Et donc, on se dit qu'on voilà, on va rester bons amis et on va se téléphoner de temps en temps. Et en fait, on va, à partir du moment où il quitte la région parisienne pour retourner en Belgique, on va commencer à se parler par message et on va commencer à s'appeler tous les soirs. Lui, très rapidement, au bout de 2-3 jours après, donc fin de la semaine après qu'on se soit séparés, il m'annonce par téléphone que ça ne peut pas en rester là, qu'il a développé des sentiments pour moi. Je lui dis que c'est n'importe quoi, que ça fait même pas une semaine qu'on se connaît, qu'il connaît pas tout ça, mais que c'est pas vraiment des vrais sentiments et que ça va vraiment pas être possible. Donc très difficile pour lui. J'ai parlé de cette histoire à quelques amis. À la base, je leur ai juste dit que j'avais vu un garçon pendant un week-end. Ça change pas trop de ce que je pouvais leur dire d'habitude. Mais là, il y a plusieurs personnes qui me demandent si c'est le début d'une histoire. Et je leur réponds, pas du tout, n'importe quoi. Il a 20 ans, je fais un gros blocage sur son âge. Et donc je dis, pas du tout. Impossible, jamais je vais m'engager avec un garçon si jeune. Mais ça commence quand même à cogiter beaucoup pour moi. Je ne peux plus être une journée sans lui parler. J'ai besoin qu'on s'appelle tous les soirs. Je suis pressée de l'avoir au téléphone. Et je vais appeler ma mère, finalement, et je vais lui annoncer que j'ai rencontré quelqu'un, mais je sais pas trop quoi faire parce qu'on n'a pas le même âge. Donc d'abord, elle me dit « Il a 45 ans ?» Je lui dis « Non, il est plus jeune. » Je lui dis « Il vient d'avoir 20 ans. » Et elle me dit « Est-ce que t'es bien avec lui ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce qu'il te respecte ? Est-ce qu'il te rend heureuse ?» J'ai dit « Oui. » Et donc elle m'a dit « Son âge, on s'en fout complètement. » Et donc c'était un petit peu, je pense, le dernier petit coup de pouce dont j'avais besoin pour me lancer. Et donc, un soir où on s'appelle encore une fois avec Louis, je lui dis qu'en fait, j'ai réfléchi et je suis prête à m'engager. Et donc, je lui annonce tout ça et je lui dis qu'en fait, je suis prête à tenter quelque chose. Et là, c'est lui qui me dit « Non, mais t'avais raison, en fait... j'ai réfléchi et ça va pas être possible. » Donc, grosse douche froide. Là, c'est vraiment difficile parce que je me dis, j'avais l'impression qu'il était différent. En fait, j'avais vraiment ce sentiment que quelque chose allait se passer avec lui, quelque chose de bien. Et en fait, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait que si je ne tente pas avec lui, je le regretterai parce que c'est potentiellement lui, le grand amour de ma vie. Il y a vraiment cette petite voix dans ma tête qui me dit « Si là, tu tentes pas ta chance, vraiment, tu vas le regretter. » Et donc, le fait qu'il me dise non, je comprends pas. Je comprends pas, je me dis « Mais c'est pas possible, il y a quelques jours, il avait envie qu'on s'engage. » Et donc, on en discute. Et encore une fois, là, c'est bien parce qu'on communique sur tout ça. Je lui explique tout ce que je ressens. Et en fait, il me dit « Moi, j'ai des sentiments pour toi, mais le fait que tu veuilles pas t'engager, ça signifie que ça va pas bien se passer. C'est pas une bonne base. » On continue à en discuter. On continue à s'écrire tous les jours, à s'appeler tous les jours. Et finalement, on se dit, on pose les choses. On a des sentiments l'un pour l'autre. On a tous les deux peur de s'engager parce qu'on est pas du tout la personne qu'on s'attendait à rencontrer. Et on va se voir dans un lieu neutre, pas chez lui en Belgique, pas chez moi en région parisienne. On va aller dans un endroit où on va se faire un week-end tous les deux. On va vraiment apprendre à se découvrir et on va poser les bases de notre relation. Et donc on décide d'aller 5 jours à Lille, tous les deux, voilà, de prendre une petite location et de passer ce temps ensemble pour se décider. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du week-end, soit on est un couple, soit on ne l'est pas. On décide de se dire qu'on n'aurait pas de contact physique parce que ça pourrait interférer dans notre décision. On arrive à la gare, on s'embrasse tout de suite. Donc déjà, la décision qu'on avait prise est un petit peu rompue. Mais on reste quand même dans cette volonté d'être là pour communiquer. Et donc on se raconte plus nos vies, encore plus qu'on se l'était déjà raconté quand on s'est rencontrés. Là, je me rends compte vraiment qu'on est totalement différents. Lui, il vient d'une famille d'agriculteurs où ils ont vraiment été élevés dans un système de valeurs catholiques. Donc c'est assez traditionnel, très progressiste, mais il y a vraiment des valeurs qui sont à respecter. Sa famille est très soudée, donc lui, il a encore ses 2 parents et il a 3 sœurs. Donc famille très soudée. Et il a aussi une vision de la vie qui est complètement différente. Depuis son plus jeune âge, il travaille à la ferme, dès qu'il a le temps, les week-ends, en plus de ses études. Et moi, de mon côté, ma famille monoparentale, famille un petit peu bric-broc, on va dire, qui s'est un petit peu fêlée au fil des épreuves avec mon père et la maladie de ma sœur. Une manière de communiquer en famille qui est pas du tout la même. Chez lui, c'est très posé, c'est très calme, on débat beaucoup. Chez moi, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de cris, un petit peu plus authentique, on va dire. Et on discute aussi de nos différences d'expérience de vie. Donc, lui, toujours étudiant. À ce moment-là, il postule pour rentrer dans une école à Bruxelles. Donc, pour recommencer 4 ans d'études. Donc, début des études, moi déjà en activité. Là, je revois un petit peu le schéma avec mon ex où je me dis, bon, niveau rythme, quand l'un des deux est étudiant et l'autre est travailleur, ça peut être difficile à faire passer. Mais au final, tout ça, ne nous arrête pas. On apprend à se découvrir, on se rend compte qu'on est complètement différent. Mais voilà, on se dit que ça va bien se passer. Et il va y avoir un moment assez particulier. Louis est toujours en contact avec cette communauté de frères et de sœurs de l'ordre franciscain. Et il est très proche d'un frère franciscain qui est un petit peu son père spirituel. Et donc, il me propose de faire une visio avec ce frère franciscain le lendemain de notre arrivée à Lille. Et j'accepte. Sur le moment, je sais pas trop ce que je fais là. Je revois un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Un mois avant, j'étais toujours à rencontrer des garçons sans trop d'intérêt. Et là, un mois plus tard, je me retrouve à faire une visio avec un frère pour savoir si je suis prête à m'engager pleinement pour la vie, Donc voilà, je prends un peu les choses comme elles viennent, mais c'est un petit peu particulier comme moment. L'objectif de la visio, c'est de voir si on a tous les deux le même système de valeurs. Et si on veut les mêmes choses, de partir du principe que même si on est très différent, si on veut les mêmes choses, on va réussir à poser les bases d'une relation saine. Et donc moi, ça me fait aussi réfléchir et je décide d'avoir une conversation très très importante avec lui, en tout cas très importante pour moi, qui est de lui dire « moi je veux plus d'histoires qui vont forcément se terminer ». Je veux pas m'engager si c'est pour m'engager pour 1 an ou 2 en sachant très bien que ça va pas le faire parce qu'en fait on est trop différents. Si je m'engage, c'est potentiellement pour toujours. Donc j'ai pas trop de temps à perdre, je vais te dire tout de suite ce que je veux. Moi je veux des enfants. Donc si tu veux pas d'enfants, nous deux, il va rien se passer. Et aussi, je lui dis, moi j'ai 27 ans, toi t'en as 20. J'ai pas toute la vie pour faire des enfants. Il y a un moment où l'horloge va un petit peu me rappeler à l'ordre et je ne me vois pas avoir d'enfants à plus de 40 ans. Je veux avoir mes enfants entre mes 30 et mes 40 ans. Donc je lui dis, imaginons que j'ai envie d'avoir un enfant à 32 ans, tu seras père à 25. Donc en fait, il faut que tu l'acceptes. Si t'es pas prêt à accepter que tu seras un jeune papa, nous deux, ça se fait pas. Donc c'est un peu comme un ultimatum. Lui, sur le moment, comprend pas trop ce qui se passe non plus. Et il me dit, je vais réfléchir. Et en fait, il va passer l'après-midi à réfléchir. Et le soir, pendant qu'on est en train de se balader dans les rues de Lille, il me dit, j'ai réfléchi et j'accepte tout. Voilà, et donc là, on est le 13 août 2021 et on décide officiellement de former un couple. Sur le moment, je pense qu'on se rend compte quand même de dans quoi on s'est lancé. Mais en fait, en ayant tous les deux pas les mêmes bases, c'est-à-dire que moi, j'en ai marre de toutes ces histoires qui n'ont pas fonctionné. Donc là, je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, au moins, j'aurai été claire dans mes intentions. Et lui, en fait, a une réaction très mature d'accepter de se lancer pour la vie. Mais lui, ça vient plutôt de son éducation, où c'était un petit peu ce qui était pensé pour lui, on va dire, que s'il rencontre une fille, la première soit aussi la dernière. Ses parents se sont rencontrés et se sont mariés, jeunes, et ont passé toute leur vie ensemble. Lui, dans son système de valeurs et à la fois religieux, c'est pas si aberrant que ça de passer sa vie avec sa première copine. C'est même plutôt la norme, en fait. Donc on part tous les deux sur ce postulat que c'est pour la vie, en fait. En tout cas, on va essayer que ce soit le cas. Déjà, il va être accepté dans l'école où il voulait aller à Bruxelles. Donc il déménage de la ferme et il va vivre en colocation à Bruxelles, ce qui facilite un petit peu les choses parce qu'il n'y a plus aussi ce truc de me dire « Bon, moi je vis déjà seul, j'ai ma vie d'adulte et lui, il vit encore chez ses parents. Maintenant, il est aussi seul, il s'autonomise. » Et même si c'est à distance, on a quand même la chance que la distance Paris-Bruxelles ne soit pas très très grande. Et donc, je commence à faire les allers-retours. Pratiquement toutes les deux semaines, je me rends sur Bruxelles. Et on a cette relation à distance, au final, qui est très virtuelle, hein, très message, très appel, très téléphone. Mais ça nous convient et on sait que ça va pas durer. La vie va un petit peu accélérer les choses, hein, puisque moi, en fin d'année 2021, je ne m'épanouis plus du tout dans mon travail. Je me retrouve à me demander où je vais aller et assez naturellement, je décide d'aller en Belgique, rejoindre Louis. Nous, on est très contents que je vienne en Belgique, mais l'emménagement va être un peu attristé par rapport aux parents de Louis. J'ai rencontré ses parents un petit peu avant, fin novembre 2021. La rencontre s'est bien passée. Même si je pense qu'ils avaient un petit peu d'appréhension par rapport à moi et vice-versa, parce que bon, je suis arrivée à la ferme un petit peu le cliché de la petite parisienne qui débarque à la campagne. J'étais un petit peu perdue au milieu des vaches. J'étais pas du tout à ma place, pas du tout à mon aise. Je me sentais pas du tout bien là-bas. Mais la rencontre s'était quand même bien passée. Et là, ça passe pas, parce que ça n'était pas ce qu'ils avaient prévu pour leur fils. Ils ont peur pour lui, parce qu'il est encore étudiant et que eux veulent qu'il ait juste une vie d'étudiant, à vivre en colocation avec ses amis et avoir déjà sa petite amie qui vit avec lui. C'est pas du tout le programme. Donc ça passe pas du tout. Et ils nous le font bien comprendre. Et donc je vais quand même aller chez Louis parce que j'ai nulle part d'autre où aller. J'ai plus envie de rappeler ma mère cette fois-ci. Et malheureusement, on va devoir un petit peu se cacher en fait. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un travail qui me plaît énormément, dans lequel je me sens très bien, donc un travail à Bruxelles. J'ai décidé de vraiment m'installer définitivement ici et j'ai trouvé mon chez-moi. Pour ne plus être chez lui, on s'est tous les deux dit que c'était mieux d'être chez moi et lui chez lui pour un temps. Et donc maintenant, on est toujours très heureux. Ça se passe très très bien, on est toujours sur nos premiers engagements, on a toujours envie de passer toute notre vie ensemble et on a décidé qu'on essaierait d'emménager ensemble dès la fin de ses études. Donc à l'été 2025, l'objectif c'est d'emménager tous les deux et on a déjà commencé à parler mariage et enfants qui se profilent pour les années à venir. Le rapport avec mes beaux-parents s'est apaisé parce que déjà j'ai trouvé un travail, ce qui était très important pour eux parce qu'ils ont vraiment une très grande opinion, valeur du travail. Le fait que j'étais au chômage, c'était pas très bien vu. Et le fait que maintenant j'ai un travail et que j'ai mon chez-moi, ils voient qu'on évolue en ayant chacun notre vie, mais aussi notre vie de couple, ce qui les a beaucoup rassurés. Et aussi au début, ils se disaient que c'était peut-être juste une passade, que c'était quelque chose qui ne durerait pas. Et maintenant, ça va faire 2 ans et demi qu'on est ensemble et ils voient qu'on est vraiment amoureux et on est vraiment heureux ensemble. Je voulais témoigner d'abord pour Louis, pour lui dire à quel point je l'aime et lui montrer à quel point notre histoire est particulière. Je sais que parfois, il a un petit peu de mal avec tout le passé que moi je peux avoir, ce déséquilibre qu'il y a entre lui qui n'a pratiquement pas de passé amoureux et moi assez important. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de raconter à quel point je suis heureuse avec lui et à quel point, en comparaison de mes autres histoires, celle-ci est vraiment, vraiment bien. Et je voulais aussi témoigner pour montrer que des fois, en fait, on s'arrête sur des choses, on pense que ça ne va pas fonctionner. Par exemple, l'âge, où moi, j'ai fait un gros blocage. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens, lancez-vous, en fait, la différence d'âge, la différence de milieu, la différence d'expérience. C'est quelque chose qu'on peut surmonter si on est vraiment avec la bonne personne.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal ? Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute ! Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.